Cet été, sur la première terrasse de la citadelle de Sisteron, rendez-vous au cabanon d'Escartefigue. Jules et son équipe vous accueillent dans une ambiance conviviale, en journée et lors de plusieurs soirées festives tout au long de la saison. Jules Escartefigue, au micro de Chris Alessandri. Jules, comment est venue l'idée de créer le cabanon d'Escartefigue ?
L'idée, elle est venue tout simplement parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose sur cette citadelle. C'est le symbole de Sisteron, c'est le monument qu'on voit tous les jours quand on se lève le matin. Moi, j'ai la vue de ma cuisine sur la citadelle, donc j'ai toujours voulu créer quelque chose sur cette citadelle. Il n'y a pas 50 000 choses à faire sur une citadelle où il y a plus de 80 000 visiteurs à l'année. Il y avait un réel besoin pour ces visiteurs-là de restauration et de rafraîchissement, parce que c'était, entre guillemets, une visite presque sportive pour eux. Et puis, j'ai eu cette idée-là, un jour, en voyant une petite guinguette comme ça, sur un beau monument historique aussi, j'ai dit, il faut qu'on fasse ça à Sisteron. Et donc, je suis arrivé l'année après le festival Le Cercle, où là, j'ai vu, en fait, le potentiel que la citadelle avait et offrait en fait aux visiteurs, que ça soit la nuit comme le jour, le cadre et la possibilité de vraiment prendre plus de plaisir et offrir une nouvelle expérience aux visiteurs que d'une simple visite d'un monument historique. Et donc c'est là où j'ai dit allez, faut qu'on crée quelque chose et qu'on lance le cabanon d'Escartefigue.
C'est vrai que nous sommes très bien installés. Jules, pour planter un tout petit peu le décor, qu'est-ce qu'il y a autour de nous ?
Autour de nous, déjà, on est assis sous deux beaux acacias et un gros cèdre. Ces trois arbres, ils nous font carrément une ombre majestueuse avec un petit fond sonore d'oiseaux. Donc ça, c'est magnifique, le chant des oiseaux le matin. Au mois de juillet, on a les cigales. Alors là, c'est l'extase pour les touristes. Et puis, sous l'arche du pont-levis, on a intégré le cabanon, donc, où on a notre cuisine et notre petit bar pour rafraîchir les visiteurs.
Voilà donc pour le décor, c'est vrai que vous savez recevoir. Comment parler un peu de l'esprit que vous avez amené, que vous avez donné au cabanon d'Escartefigue ?
L'esprit, pour moi, c'est l'esprit provençal, c'est l'esprit du Sud, c'est le partage, la convivialité. C'est vraiment ces valeurs-là que je voulais rapporter dans cet espace. Pour déjà, d'une part, ne pas dénaturer la citadelle, parce qu'il fallait respecter le monument, respecter les lieux qui me sont attribués. Et donc, je voulais vraiment, et c'est là où on voit beaucoup cet esprit que je veux transmettre, l'esprit sudiste, l'esprit où on partage, on s'écoute, on pose les téléphones, où vraiment on est là pour partager un moment. Et on voit beaucoup ça sur les soirées, ou quand j'organise donc les soirées où je mets des grands banquets, et j'assis un peu les gens au hasard. Donc les réservations arrivent et je mets les gens un petit peu au hasard sur les tables pour qu'ils puissent s'asseoir et qu'ils partagent un moment avec leurs voisins. Ça, c'est hyper important pour moi parce que cet esprit-là que je voulais avoir, je ne veux pas donner quelque chose de huppé ou alors de trop simpliste. Je voulais représenter les valeurs du Sud et je pense que c'est plutôt réussi.
C'est vrai que nous sommes au cœur vraiment de la convivialité, c'est comme ça qu'on ressent l'ambiance dès qu'on arrive chez vous. Il y a un petit côté artistique aussi, je dirais même, une petite touche.
Quand on est dans un espace comme celui-là, sur la citadelle, avec un petit peu, on va dire, le rooftop de Sisteron, où on a la vue complète sur la ville, il y a un moment où le côté artistique, il vient naturellement. On est forcément attiré par cette vue et ce cadre incroyable. Donc on essaie juste de s'intégrer au mieux.
Vous mettez en avant les produits de la région et ça vous y tenez, des Alpes de Haute-Provence également. Pourquoi cette démarche ?
Pour moi elle est importante parce que déjà je pense personnellement d'ici quelques années, ça c'est un avis plutôt personnel, mais je pense que d'ici quelques années on reviendra beaucoup au circuit court parce qu'avec l'augmentation des coûts de transport, l'augmentation du coût de la vie, je pense qu'il y a un jour où on va revenir un petit peu où comme faisait nos arrière-grands-parents, ils allaient au jardin, ils allaient voir le producteur du coin pour se nourrir. Et ça, je pense qu'on va y revenir. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de logique de travailler le plus possible en circuit court. Alors après, il faut être honnête, il y a des moments où on ne peut pas. Il y a des produits qu'on ne peut pas retrouver dans la région, qu'on ne peut pas aller chercher facilement parce qu'il y a des problèmes aussi au niveau des livraisons. C'est-à-dire que moi, travaillant 7 sur 7, il y a un moment où je dois me faire livrer et il y a des producteurs malheureusement qui ne peuvent pas me livrer. Pourtant, j'adorerais, mais ce n'est pas possible pour eux parce que ben, eux aussi font du 7-7 et donc ils ne peuvent pas forcément se libérer. Cependant, on a beaucoup de producteurs locaux, notamment sur le miel. On travaille avec une miellerie d'oraison. On travaille au niveau de la bière avec une bière de Sisteron, donc bière de la Durance. La viande, donc on est chez Viande et Charcuterie. On travaille avec la boucherie Giraud. On essaye vraiment de rester sur des choses très local. Le jus de pomme, on est sur un jus de pomme de l'Aragne cette année, en bio. La glace, c'est un petit peu plus loin, on est allé chercher la glace de Provence, c'est à Malataverne, c'est en Drôme provençal. Ça, c'était un choix pareil de ma part parce que c'était une entreprise qui ressemblait à ce que je voulais montrer moi sur le cabanon. Mais on a essayé au plus possible de pouvoir proposer encore une fois une expérience complète aux visiteurs. Le visiteur, quand il vient à Sisteron, il a envie de manger des produits de Sisteron et des alentours. Et donc, ben, si nous, on ne le met pas en valeur, ça, alors plus personne ne le met. Quoi. On est sur la citadelle de Sisteron, donc si on fait un cassoulet, ça n'aurait pas de sens.
Gilles Escartefigue, un petit tour du côté de la carte, histoire de nous mettre en appétit. Qu'est-ce que vous proposez là, par exemple, aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on a, en fait, sur la carte du jour, on a une carte différente entre le jour et les soirées. Sur la carte du jour, on va retrouver des beaux sandwichs, donc avec un pain du boulanger, de la boulangerie de l'horloge. Un olivier. L'olivier, c'est un jambon beurre qui est revisité. Donc ça, c'est super sympa. Pareil, pour se démarquer un petit peu, pour essayer, j'aime bien aller chercher la petite touche, un petit peu de subtilité. Donc là, on a un jambon beurre avec un beurre d'huile d'olive maison. Donc ça, c'est une petite touche sympa. Ensuite, on va avoir un pagnol. Le pagnol, ça, c'est un... En ayant le nom Escartefigue, il fallait que je mette de la figue quelque part. Donc du coup, je l'ai mis dans ce pagnol avec un chutney de figue, un jambon cru, un chèvre frais et un petit peu de roquette pour donner cette petite mâche. Donc ça, c'est sympa. On va avoir aussi le provençal. Ça, c'est la nouveauté de cette année, un sandwich végétarien avec de la courgette, de l'aubergine grillée, à l'herbe de Provence, à l'huile d'olive. On va avoir un chèvre frais aussi et un petit peu de miel de lavande. Donc ça, c'est vraiment le petit sandwich sudiste, quoi. Comme on aime, c'est très, très frais. Et puis après, chaque jour, on fait une petite tarte et une salade. Donc là, aujourd'hui, on est sur un taboulé provençal. Mais on a aussi donc la tarte. C'est une. Aujourd'hui, je n'ai pas demandé à Sophie ce qu'elle nous a préparé. Mais il me semble que c'est une tarte au thon, tomate, herbe de Provence et olive à la grecque.
Je vois qu'il y a toute une ambiance. Vous avez su mettre un décor, planter un véritable décor. Et quand je parle de décor, je veux parler aussi des soirées avec des thèmes. Il y a une estrade qui est là également. Qu'est-ce qui se passe le soir ?
Le soir, c'est là qu'un petit peu tout prend forme et tout le sens que j'ai essayé de mettre dans le cabanon. J'ai envie de dire que ça s'éveille parce qu'on a vraiment le lieu en lui-même, c'est un spectacle. Même s'il n'y avait pas de concert sur l'estrade, je pense que le lieu en lui-même offre, avec la lumière, avec le coucher de soleil, avec la vue sur Sisteron, un spectacle à lui-même, c'est magique. J'ai vraiment pas d'autres mots, c'est vraiment très joli. Donc à cela, on a dit quand même, il faut quand même un petit peu de musique, un petit peu de fond sonore. Et donc on organise plusieurs soirées avec plusieurs groupes. Donc là le premier c'était Olivier Chabas avec son Stick Chapman qui fait un son sublime. Et donc on avait fait donc, la première soirée d'ouverture. On avait gardé notre carte classique, mais cependant ça peut arriver que de temps en temps on fasse des soirées avec des plats uniques. Par exemple le 27 juin prochain on aura une soirée pied paquet. Donc bien sûr avec des plats de substitution parce que c'est quand même assez particulier et pas tout le monde aime. On fait voilà, des soirées comme ça avec des petits plats provençaux qu'on fait maison bien sûr. C'est tout Sophie en cuisine qui fait ça. Et donc on aura une soirée soupe au pistou aussi, une soirée brasero où on va mettre un petit peu en avant l'agneau de Sisteron, voilà, des choses comme ça. On essaie toujours de garder... Même si pour les locaux, ils connaissent, on en mange et on en remange, je veux dire, des plats de la région, on les connaît. Mais c'est en même temps la fierté de la région, donc on essaie de garder aussi cela. Voilà, lors des soirées, si on revient sur l'ambiance qui règne, ouais, c'est une ambiance guinguette, conviviale. On vient boire un petit coup, on mange bien, on a de la musique, on a la vue, on est au calme. Et puis pour les enfants, c'est magique. On a un espace immense. Ils peuvent jouer, se défouler. Les parents, ils sont en sécurité. Ils savent qu'il n'y a pas la route à côté. Donc c'est aussi un gage de sérénité pour les gens qui viennent ici.
Vous savez harmoniser les ingrédients pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Il faut une équipe aussi, des personnes qui vous aident. Il faut des bénévoles. Comment ça se passe ?
Clairement, c'est seul, j'aurais rien pu faire. Autant sur l'année dernière, la première année, où j'avais mon ami Anthony David qui a maintenant monté son food truck, le terroir d'Anto. Sans lui, c'est sûr que déjà, j'aurais jamais pu créer ça la première année, parce que seul, j'avais les idées, j'avais la motivation, j'avais l'envie, que j'ai toujours d'ailleurs, mais j'aurais pas pu avancer aussi vite. Déjà, d'une part, parce que mes connaissances en cuisine, Elles sont là, mais je ne suis pas cuisinier de métier. Donc il y a un moment où créer une recette, c'est jouable. Calculer un coût matière, c'est jouable. Mais quand il faut cuisiner pour 160 personnes, ça, c'est pas mon métier. Donc il m'a fallu m'entourer de personnel qualifié. Et donc la première année, c'était Anto qui m'a aidé et qui m'a soutenu. Et on a fait une superbe saison. De nombreux extras aussi sont venus, des amis qui m'ont aidé à monter des tables nombreuses fois. Il faut aller les chercher. L'année dernière, c'est les services festivités qui me les prêtaient généreusement. Cette année, j'ai investi dans des tables parce que j'en avais marre d'aller les chercher et les porter. Donc, j'ai investi dans des tables en plastique, c'est plus léger. Ils m'aident toujours. Dès que j'ai du matériel à monter ici, sans mes amis, sans ma famille qui me rend beaucoup de services, que ce soit pour du bricolage ou des dépannages, parce que quand je suis ici, je ne peux pas être ailleurs. C'est sûr que sans eux, je n'aurais jamais pu créer tout ça. Cette année, j'ai une nouvelle équipe. Donc j'ai Sophie en cuisine, Sophie qui a 20 ans de métier. 20 ans de passion pour l'amour de la cuisine du Sud. Donc clairement, pour la première soirée, les gens qui ont pu venir, ils ont vu qu'elle était faite pour ça. Et cet amour qu'elle avait pour la cuisine du Sud, il se ressentait dans l'assiette. Donc ça, c'était magnifique. On a aussi Roman qui vient nous aider en renfort sur un petit contrat étudiant sur les services du midi. Quand on a beaucoup de couverts, il faut quand même envoyer. Nous, l'objectif ici, c'est que... On est quand même sur un service de restauration rapide, donc il y a très peu d'attentes, il faut que ça envoie. Ça, c'était un peu l'objectif parce que y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, il y a le petit train à reprendre, ils ont les voitures au parking, ils ne veulent pas rester des fois trop longtemps. Donc la restauration rapide, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Je ne voulais pas aussi créer un restaurant ici parce que c'était pour moi pas le bon plan. Je ne veux pas faire de l'ombre sur les commerçants du centre-ville. Le but, quand j'ai créé ça, c'est de donner quelque chose de nouveau aux visiteurs. C'est pas d'aller prendre des clients, c'est pour ça que je ne fais pas, par exemple, de boules de glace. Je veux laisser ça aux glaciers du centre-ville. Je ne fais pas de plats chauds en journée, du style une entrecôte frite. Je ne le fais pas parce que je ne veux pas faire de l'ombre. Le but, c'est de donner quelque chose de nouveau, de répondre aux besoins qu'il y avait, sans faire de l'ombre au commerce du centre-ville.
Vous allez de table en table. Quelles sont les réactions que vous avez justement de ces visiteurs, les réflexions, les idées peut-être aussi ?
Globalement, j'ai envie de dire, ils sont juste ravis de pouvoir profiter de la citadelle quand ils ont fini la visite, de pouvoir se poser, boire un coup et juste profiter du cadre. Ça, c'est le plus gros point. Ensuite, sur la cuisine, on n'a que des très bons retours parce que on fait des choses simples, mais faites maison, de temps en temps un petit peu recherchées. Et ça leur convient parfaitement. Des fois, les personnes retraitées ou les personnes âgées, elles n'ont pas forcément envie de manger beaucoup. Donc on fait des petites choses, des petits plats, et ça leur convient parfaitement. Les produits qu'on propose, ils sont juste délicieux. Donc on reste sur une politique de prix très abordable. On veut que ça coûte pas cher et que ça soit bon. Nous, ça, c'est vraiment l'objectif pour moi. Quand je vends une salade pour 8 euros et qu'on me dit c'était super copieux, moi j'ai rempli mon contrat, la personne s'est régalée, c'était copieux, tout le monde est gagnant en fait. Et c'est là où j'avais un point d'honneur à mettre sur ça, parce que c'est pas parce que je suis sur un lieu un petit peu plus vert, joli, avec le cadre magnifique, qu'il faut tout de suite monter les prix. Il faut rester en cohérence avec ce qui se fait dans la région. Quand je vois nos prix, par exemple des bières, on est des fois même en dessous de certains confrères dans la ville. Donc on voulait vraiment mettre un point d'honneur aussi là-dessus. Et du coup, les clients, ils sont plus que satisfaits parce qu'ils ont le cadre, ils ont le prix qui est correct et ils ont la qualité des produits, donc c'est merveilleux.
Est-ce qu'il y a des projets ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'améliorer, de changer peut-être ?
Améliorer. On peut toujours s'améliorer. Ça, c'est certain. On peut être plus efficace sur les soirées pour qu'il y ait encore moins d'attentes, que vraiment on débite. Donc ça, c'est des petites améliorations à faire. Ça passera par des aménagements dans le cabanon parce que à l'heure d'aujourd'hui, on est très limité. C'est-à-dire que je n'ai pas d'eau potable. Donc je suis obligé de tirer un tuyau tous les 4 matins pour remplir ma cuve, pour ma plonge. À cela, j'ai une cuve d'eau grise que tous les 4 soirs, je dois vidanger avec des bidons, que je dois monter, vider. C'est une très très grosse contrainte, une charge physique et mentale très lourde. Donc ça passera en fait par ces aménagements-là. L'amélioration du cabanon pour accueillir 150, 160 personnes sur des événements régulièrement, ça passera par voilà, des aménagements, donc l'eau potable, une électricité plus viable, parce que là, on est sur quelque chose de provisoire encore, qui fonctionne, hein, on n'a pas de souci là-dessus, mais si je veux brancher plus d'appareils électriques, si je veux augmenter ma capacité en fait, à produire, il faudra voilà, aménager un petit peu. C'est des projets qui sont en cours avec l'association Arte à Trémonument, mais ça prend du temps parce qu'on est dans un lieu historique, monument classé. Il faut du temps, il faut de la patience, mais je suis sûr que ça viendra et qu'on arrivera à régaler encore plus de monde.
Jules Escartefing, vous êtes un passionné, vous avez également l'esprit de compétition. Et c'est vrai que du côté du sport automobile, eh bien, vous êtes reconnu comme étant un excellent copilote. Vous avez été référencé à de nombreuses reprises. Vous avez pris le départ du rallye de Monte-Carlo cette année. Quels sont les projets que vous avez côté automobile ? Est-ce que ça se concilie avec la restauration ? Parce que les deux demandent du temps et de l'énergie.
Ouais, carrément. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Ça, je le confirme. Pour les projets rallystiques, là, honnêtement, j'ai dû mettre un petit peu en pause parce que gérer une société, gérer des employés, gérer son commerce, ça prend du temps. Si on veut le faire bien, il faut être à 200% là-dedans. Donc j'ai dû mettre un petit peu en pause cette année. Cependant, ça se concilie plutôt bien parce que j'ai de la chance d'avoir créé... De toute façon, c'est, voilà, c'était réfléchi. Hein. Quand je parie, en général, c'est que je suis sûr de gagner. Sinon, je parie pas. Mais j'avais eu l'idée voilà, de créer quelque chose sur la saison estivale où c'était un petit peu mort au niveau des rallyes, juillet-août. Très peu de rallyes, très peu de revenus pour moi. Donc du coup, je m'étais dit, bon voilà, si je crée quelque chose, il faut que ça soit quelque chose d'autonome, soit quelque chose qui me permette de faire ça l'été. Donc du coup, ça se concilie plutôt bien. Ma période de rallye étant plutôt de mars à juin et de septembre à novembre, j'arrive à composer. Cette année, j'ai fait un peu le choix vraiment de me focaliser sur le cabanon pour pérenniser mon activité. Mais voilà, en fin de saison, je sais que le calendrier, les dates sont déjà bloquées et qu'on va repartir de plus belle à partir du mois de septembre. En rallye, il y a plusieurs possibilités à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de discussions sur la fin de saison et sur les années à venir qui vont sûrement me demander un engagement peut-être supplémentaire. C'est des projets avec des jeunes pilotes, donc où je veux mener mon expérience justement que j'ai acquérie depuis ces quelques années. Et donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça sera, où ça ira. Voilà, des gros projets rallystiques sont en cours avec toujours voilà, l'esprit de compétition. On va aller chercher le plus de victoires possible, de résultats. Cette année, on n'a pas trop mal commencé. On fait un podium au rallye d'Antibes, donc on va essayer de continuer sur cette lancée-là. Et puis on verra où ça nous mène. En tout cas, en copilote, pas mal de projets arrivent. En tant que pilote, il y en a un gros qui arrive... À la fin de l'année, on aimerait bien, avec mon ami Martin Ponty, renouveler l'expérience qu'on a fait l'année dernière sur le rallye du Dévoluy, où on avait terminé sur une très bonne position, on finit deuxième du deux roues motrices. Et donc on a dit on peut pas rester sur ça. Donc on a pour projet de faire le rallye du Dévoluy et le rallye du Monte-Carlo. Donc c'est un gros projet humain, financier, mais qu'on va essayer de mener, parce que sinon j'ai peur de m'ennuyer en fait sur la fin de saison. Donc je me fixe un peu des objectifs comme ça, et on va essayer voilà, de monter ce projet-là sur la fin de saison, dès que j'aurai fermé le cabanon au mois de septembre, focalisé sur le Monte-Carlo pour essayer de pouvoir le faire au moins une fois dans sa vie au volant.
Jules, le cabanon d'Escartefigue, toute une ambiance, des rendez-vous que vous fixez, de l'animation, de l'amitié aussi que vous distribuez au fur et à mesure. Ça vient du fond du cœur. Quel est le petit mot que vous auriez à dire aux personnes qui nous écoutent, aux touristes, aux futurs clients, et puis peut-être les rendez-vous aussi, les horaires que vous avez durant l'été?
Alors déjà, les quelques mots que j'aurais à leur dire, hein, que ce soit pour les locaux ou pour les touristes, c'est de venir visiter ou revisiter la citadelle. Parce que la citadelle évolue. L'association Art, Théâtre et Monuments fournit un boulot magnifique. Ils rénovent cette citadelle pour que la visite soit de plus en plus belle, notamment sur la nouvelle muséographie cette année. Ils ont fait vraiment un très très beau boulot. Donc déjà, de revenir la visiter, ça c'est un point important. Et puis quand ils ont fini la visite, de s'arrêter boire un coup. Ça, c'est le deuxième petit mot. Ensuite, concernant les dates, la programmation va sortir cette semaine de toute l'année. Globalement, c'est à peu près une représentation par semaine sur l'été. On a varié les jours cette année. On ne fait pas ça uniquement le vendredi soir ou le samedi soir. On a du jeudi soir, on en va avoir du lundi soir, on va avoir des mardis soirs, pour justement que les personnes qui ont tendance à partir en week-end ou en vacances puissent, à un moment dans l'été, pouvoir monter et profiter de l'espace. Donc la programmation sera publiée, je pense, au niveau de la presse locale et des réseaux sociaux. Là, la prochaine soirée, ça sera le 26 juin. Il y aura un concert de l'école de musique de Sisteron, de 17h30 à 22h30, avec bien sûr entrée gratuite pour les visiteurs. Pas dans la citadelle. L'accès sera réservé à ceux qui payent l'entrée, le droit d'entrée de la citadelle. Mais l'espace du cabanon, lui, sera gratuit avec la buvette et la restauration sur place. Ensuite, le lendemain, on aura encore donc la soirée pied-paquet. Et là, c'est une ouverture 19h30, 23h. En concernant les journées, sur le mois de juin, on est ouvert sur les horaires de la citadelle. Donc 9h, 19h, non-stop, avec la dernière entrée à 18h. De 18 à 19h, c'est uniquement les sorties des visiteurs pour justement qu'ils arrivent à gérer le flux. Et ensuite, juillet-août, ça sera 9h, 19h30, donc une demi-heure de plus. Et pareil, la dernière entrée une heure avant à 18h30. Et sur septembre, on reprendra les horaires du mois de juin, 9h, 19h. Pour les éventuelles réservations sur les soirées, je privilégie toujours mon numéro de téléphone pour me contacter, que ce soit par SMS ou par appel téléphonique, donc au 07 60 41 64 37, ou éventuellement on prend les réservations sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, on est très actifs de partout de toute façon. C'est ce qu'il faut aujourd'hui.
Merci Jules Escartefigue, est-ce qu'on peut vous dire bonnes vacances ?
Je ne sais pas si ça sera des vacances, mais cependant, ça ne sera pas forcément du travail non plus, parce que quand j'arrive le matin sur ma belle terrasse, je n'ai pas l'impression d'être au travail.